Hello, c'est Najwa, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'Étincelles, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la rencontre de Marie, cette jeune entrepreneure pluridisciplinaire qui mélange entre la culture française et la culture japonaise. Découvrons ce profil ensemble.
Hello Marie, merci d'accepter le rendez-vous chez Étincelles. Je vais te poser la première question philosophique que je pose à tout le monde. Qui est Marie?
Marie, c'est une fille qui a 32 ans maintenant et qui explore plein de choses, qui ne se donne pas trop de limites. Quand voilà, il y a une idée, on essaye d'aller au bout pour voir où ça mène. Et donc, ça mène à plein de choses assez passionnantes. Je ne m'ennuie pas trop dans la vie. Et donc, voilà.
Super. Mais du coup, ce qui m'a attirée dans ton profil, c'est que j'ai vu que tu as créé plusieurs marques. Et du coup, aujourd'hui, tu en as trois. Est-ce que tu peux nous en parler de ça et surtout comment tu t'organises face à ces trois activités qui sont différentes et que pour d'autres personnes, c'est une activité à part entière?
Je vais commencer par expliquer ces trois activités. La première activité, donc, c'est Mono Ito Koto. Donc ça, c'est en fait, j'ai créé cette, enfin, c'est pas vraiment une marque, mais ce projet l'année dernière. Et donc, en fait, on est concepteur d'environnement narratif. En fait, c'est accompagner les décideurs, les initiateurs de projets immobiliers dans l'écriture d'une vision claire et lisible pour les futurs utilisateurs de leur lieu et de les accompagner dans tout le projet jusqu'au dessin et à la conception.
D'accord.
En gros, je suis donc indépendante avec autour de moi un écosystème d'indépendants aussi, donc des architectes, des sociologues, des anthropologues, des psys, des spécialistes, des dessinateurs de mobilier, etc., pour pouvoir justement avoir un accompagnement complet sur tous les projets immobiliers. Donc ça, c'est le premier truc. Donc c'est un peu l'activité principale hein, que je souhaite développer au maximum.
La en deuxième principale, c'est-à-dire, elle représente combien en termes de pourcentage, 60% à peu près?
Je dirais même 80.
D'accord, ok.
Ouais, c'est vraiment, j'y passe beaucoup de temps. À côté de ça, en fait, j'ai toujours été freelance en graphisme. Donc, j'ai aussi des projets qui sont purement graphiques.
D'accord.
Là, en ce moment, je bosse sur un truc avec l'Australie. Enfin, c'est improbable, mais je suis en train de monter tout un site web avec un développeur hyper interactif, machin. Enfin, bref. Donc, ça aussi, c'est un truc à côté. Et donc là, pour le coup, quand j'ai des projets en graphisme, ça fait un peu 50-50 avec l'autre activité.
OK.
Et donc, les deux marques que j'ai créées, c'est deux marques de fringues qui sont complètement différentes en termes de philosophie. Il y en a une, c'est Yukata by Mom. C'est donc une marque qu'on a créée avec ma grand-mère et ma mère, qui sont toutes les deux japonaises et qui vivent au Japon. L'idée, c'était vraiment partie d'un... Voilà, on avait envie de faire un truc toutes les trois parce qu'on aime créer des choses et on aime beaucoup le tissu. Donc, ouais. On voulait faire quelque chose autour de ça toutes les trois. Et donc, on a créé cette marque de kimono en coton. Donc, c'est quelque chose d'assez léger et on va chercher en fait des matières qui ne se vendent plus, entre guillemets, parce qu'elles ont des taches, elles ont voilà, elles ont vieilli, ou limite on nous en donne parfois quand des copines de ma grand-mère en retrouvent dans leur placard. On dit, voilà, bon, c'est, ça jaunit, mais tiens, si tu arrives à prendre les parties qui sont encore propres, vas-y. Et donc, voilà, on prend tous ces tissus qui vont potentiellement partir à la poubelle pour en faire voilà, des pièces. Voilà, des yukata, comme on les appelle. Donc, c'est des kimonos légers en coton.
Et d'ailleurs, les kimonos, ils sont vraiment trop, trop, trop. Ils sont magnifiques. J'ai pu voir sur Instagram et franchement, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça veut dire quoi en fait les noms de chaque, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour les kimonos?
Ah oui, alors mono, hito, koto, alors c'est mono, c'est l'objet, mais concret, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut entendre et voir.
D'accord.
Hito, c'est en fait c'est l'homme, l'humain et ses comportements. Et koto, en fait, c'est l'objet, mais conceptuel, c'est l'idée de l'objet.
D'accord, ok.
Voilà,
Intéressant.
donc ça, c'est les trois piliers, enfin, de ce que j'appelle un environnement narratif, donc qui raconte une histoire. Donc, c'est l'association entre un espace concret, les gens à qui on va parler, et le concept, donc l'histoire que l'on va leur raconter. Et donc, ça crée un environnement narratif. Donc, ça, c'est pour la première activité. Yukata by Mom, donc le by Mom, c'est voilà, c'est anglais. Et yukata, en fait, c'est le terme qui désigne le kimono, mais d'été. Parce qu'au Japon, on a un kimono très cérémonial et d'hiver qui est en soie. En fait, ça, c'est la plupart des kimonos qu'on trouve en friperie, etc., qui sont très très longs. Ça, c'est le kimono, c'est en soie. Et
OK.
le yukata, en fait, c'est un kimono, mais très allégé pour l'été, parce qu'il fait quand même très chaud au Japon
Wow.
l'été. Et donc, pour pouvoir le porter un petit peu plus simplement, etc., on a une version qui est juste en coton, très respirant, mais qui garde, et le tissage est très serré pour pouvoir garder cette forme des manches, etc. Et donc, les filles portent ça, les garçons aussi. Et il y a aussi le yukata qu'on trouve dans les hôtels traditionnels pour pouvoir se changer. Et comme ça, on a quelque chose d'assez léger à porter après le bain, etc. On met un yukata qui est plus simple qu'un kimono en soie.
D'accord, ok, super. Et du coup, la troisième marque qui est la petite bite.
Exactement. Voilà, on a réussi le pari de s'appeler comme ça. Donc la petite bite, en gros, c'est parti d'une blague, hein, forcément. Je l'ai démarré avec mon copain. Là, il est en reconversion, donc voilà, je le laisse un peu tranquille avec ça. Mais donc c'est une marque qu'on a voulu créer. Pour questionner en fait les codes de la virilité aujourd'hui dans notre société. Voilà, ça fait 3 ans qu'on existe. Je vois que le sujet il prend de plus en plus de l'ampleur, donc je suis trop contente parce que voilà, pour nous tous les symboles de virilité, tout ce que en fait tous les codes que finalement on impose sans vraiment s'en rendre compte aux hommes et aux femmes, sont pour nous, entre guillemets, le nerf de la guerre, quoi. Au final, on aura beau avoir tous les mouvements féministes, etc., si on ne s'attaque pas finalement à la virilité, pour nous, en fait, il y aura toujours des choses à travailler. Et donc, on a pris ce mot parce que c'est le symbole même de la non-virilité. Donc, c'est un peu l'insulte suprême, quoi, pour un mec de dire qu'il a une petite bite. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, on va s'appeler comme ça et on va mettre une petite bite sur le t-shirt. Et puis, Voilà, ça va lancer des débats. Quand on va le porter en apéro, ben, on va nous poser la question et puis on va pouvoir parler de ça. Et puis voilà, petit à petit, on va pouvoir semer des graines finalement de réflexion chez les gens. Donc c'est une marque toute simple de vêtements très basiques avec une petite bite brodée à la main. Donc c'est moi qui brode toutes les
Ah,
petites
c'est toi
bites.
qui les fais, du coup.
Oui. Ça me prend pas mal de temps pour le coup quand
Oui,
on est en
c'est
période de pré-Noël ou quoi, et qu'il y a pas mal de commandes. Du coup, c'est moi qui les brode à la main parce que on n'a pas un volume assez important pour les faire, disons. Donc, c'est moi qui fais à la commande. Donc, voilà, ça c'est les vêtements. Et puis, on a lancé un projet. Alors, s'il y a des gens qui ont participé et qui vont entendre ce podcast, je m'excuse platement. Mais pour le coup, voilà, on a lancé un projet
Ou le
où
quatrième projet, c'est ça?
c'est au sein de la petite bite, mais effectivement, c'est un projet sous la marque La Petite Bite, où en fait, on interrogeait des gens, des clients ou de l'écosystème de nos clients pour leur poser la question. C'est quoi la définition de la virilité pour toi?
Ouais.
Et donc, et on voulait faire un petit recueil de tout ce qu'on avait recue enfin, tu vois, de tout ce qu'on avait entendu dans les interviews, les illustrer pour faire un petit bouquin humoristique, tu vois. Parce qu'on se disait, on n'a qu'à écrire la nouvelle définition de la virilité, ce serait cool. Et sauf que j'ai fait les 50 entretiens, on les a retraités, on a sélectionné les citations et je me suis arrêtée là. Et donc, il faut que je passe à l'étape d'après qui est la mise en page, les dessins. Voilà, après, une fois que le recueil est fait, d'aller l'imprimer et le proposer à des librairies, etc. Voilà, donc je me suis un petit peu arrêtée. Ça fait un an. Et je suis sûre que les gens qui ont répondu doivent se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je l'ai toujours dans ma to-do. Mais j'ai un peu de mal à passer le cap de ce projet. Mais voilà, là, il est un peu endormi.
Mais c'est un projet qui est très, très, très intéressant.
Oui,
Et justement,
pour ça que je l'abandonne pas.
Non, mais tu ne vas pas l'abandonner, tu vas le faire. On t'encourage
Oui.
à le faire. Et justement, Marie, c'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer dans le monde d'entrepreneuriat? Parce que ce qui est génial avec ton profil, c'est que tu expérimentes pas mal de choses, et etc. Du coup, c'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer?
Je dirais, donc je vais prendre surtout le cas de mon activité principale, parce que les autres, je les ai toujours faites à côté. Donc, entre guillemets, j'avais pas trop de risques, quoi. Enfin, et puis, j'ai pas emprunté d'argent, j'ai pas, voilà, pour lancer les marques de fringues. Donc, ça, je dirais que j'avais pas vraiment peur. Enfin, c'était. On essaye et puis si personne n'achète rien jamais, on fermera le truc. Pour l'activité principale, je dirais la peur, c'est des. Enfin. Déjà, de ne pas avoir d'activité, de ne pas aller au bureau, enfin, t'sais, de perdre ce truc d'être dans une entreprise. Donc, voilà, de se retrouver un peu sans filet de protection. J'avais peur aussi, parce que je lançais un peu mon activité qui est pas non plus, enfin, qui est une continuité de ce que je faisais au sein de la boîte, parce que à la base, j'ai essayé de développer cette activité au sein de mon entreprise. Et c'est compliqué, parce que j'étais dans une petite structure, c'est compliqué de faire de l'intrapreneuriat dans une start-up, parce que bon, il n'y a pas assez de marge, disons, comme une grosse boîte pourrait l'avoir, de développer des projets comme ça aussi gros en interne. Et comme je faisais, comme je suis partie en me disant, je vais aller encore plus loin et je vais essayer de pousser mes convictions que j'ai déjà développées dans ma boîte, de les pousser et d'en faire mon activité. C'est vrai que j'avais peur de faire doublon, j'avais peur aussi de de pas être assez mûre aussi pour être indépendante, puisque j'étais dans cette structure pendant 5 ans. Mais je me suis dit, est-ce que ça suffit pour devenir indépendante et mener son bateau tout seul? C'est plus ces craintes-là qui m'ont fait un peu enfin tu vois, qui ont fait que j'ai mis du temps aussi à me rendre indépendante, je pense.
Oui, c'est normal parce que ça casse aussi enfin, la croyance des sociétés par rapport au travail. Enfin, généralement, la plupart de nos parents, de nos familles, même les écoles, on était endoctrinés pour avoir un CDI, pour avoir une certaine sécurité et stabilité dans le milieu de travail. Donc, le monde indépendant, c'est-à-dire, tu te confrontes à une non-sécurité.
Ouais, c'est vraiment de se dire, à partir de quelque temps, tout ce que je gagne, je vais devoir, ce sera mon revenu, entre guillemets, parce que comme j'ai toujours été auto-entrepreneur à côté de mon salaire normal, si tu veux, tout ce que je gagnais, pour moi, j'en faisais des économies, quoi. Tu vois, je le mettais dans un compte, j'y touchais pas. Et là, de me dire, en fait, là, ce que je vais gagner, je vais pas le mettre de côté, je vais devoir l'utiliser. Et ça m'angoissait un peu. En
C'est normal.
me disant, oh, ok.
Est-ce que c'est assez, tu comprends? C'est une usine d'entrepreneuriat à toi toute seule. Du coup, je pense que tu as un processus, enfin, tu connais par cœur les étapes clés qui permettent aux entrepreneurs justement de passer de l'idée au projet concret. Et du coup, est-ce que tu as des tips? C'est quoi tes étapes clés qui t'ont permis justement de faire tous ces projets?
Je dirais l'étape clé, je l'ai évoquée au début, c'est vraiment, en gros, quand j'ai une idée, ou quand j'ai une envie, un truc comme ça, j'essaye d'enlever au maximum tout ce que je peux avoir d'idées comme négatives. Moi, typiquement aujourd'hui, quand j'ai envie de faire un truc, ma première réflexion, c'est non, mais Marie, concentre-toi sur déjà ce que tu es en train de faire. Tu as déjà trop de trucs, ça te prend du temps. Enfin, tout ça, j'essaye déjà de le mettre de côté et de me dire voilà, qu'est-ce qui me motive dans ce truc. Donc, à chaque fois, en fait, finalement, dans tout ce que j'ai gardé comme idée, il y avait des choses très très fortes à raconter. Donc, Yukata, c'est vraiment tout ce truc culturel. J'avais envie de partager ce truc-là, les tissus qui eux aussi racontent une histoire, aussi le fait d'upcycler les choses qui auraient dû être jetées. La fast fashion, c'est quelque chose. Ouais, qui me passionne en tant que sujet, enfin, de me dire c'est fou comment on en est arrivé là et comment en fait on arrive à ça, quoi. Enfin, on est arrivé à ce truc-là où il y a des tonnes et des tonnes de tissus qui sont jetés, comment on arrive à des conditions de travail qui sont vraiment horribles. Donc, tout ça, c'est lié à ce sujet-là. Je l'aborde vraiment via une toute petite fenêtre. Mais voilà, il y a un sujet qui me passionne et qui se trouve derrière ce projet. Derrière le projet de la petite bite, c'est tout ce qui me passionne autour des sujets de genre et des codes sociaux qui en fait sont la base de nos interactions. Et donc là aussi, je pense que je l'ai gardé, je suis allée au bout parce qu'il y avait vraiment une conviction à porter. Et une vision que je voulais partager et débattre. Monolith Okoto, c'est pareil, c'est vraiment une vision de l'architecture, de l'importance de porter justement des visions dans la ville et dans les entreprises au niveau des espaces. Donc, voilà, j'essaye de me poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans cette idée, qu'est-ce que ça cache, c'est quoi le gros sujet en fait que je veux aborder. Et donc ça, c'est en gros la première étape. S'il y a vraiment quelque chose de profond et je me dis, mais ça me passionne, et je veux aller au bout, là, je me pose un petit peu plus sur le sujet. Et ensuite, ça dépend de la nature du projet, hein, mais moi, je suis une grosse frileuse. Je n'aime pas genre, me mettre en danger, entre guillemets. Donc, si c'est un truc de fringue, je vais vraiment faire à petite échelle, tu vois, dans un niveau où je peux, tu vois, acheter de la matière première, etc., sans m'endetter, entre guillemets. Donc, je vais faire à petite échelle pour tester, pour voir. Tu vois, là typiquement, la Tibit, à un moment, on s'était posé la question, est-ce que... On tente en fait de faire et du coup on met toute notre énergie plutôt sur la com pour pouvoir avoir plus de volume, etc. Et finalement je me suis dit non, je préfère rester à un niveau où je peux maîtriser, où je m'intéresse plus au fond que à faire du volume. Donc voilà, la deuxième étape c'est de se dire comment je peux lancer le truc tout en étant voilà, sans trop mouiller entre guillemets. Je pense que c'est pas très entrepreneur dans l'âme, hein, de dire ça, mais voilà, moi je suis comme ça, je suis très frileuse, donc je vais essayer de faire des petits
Ça,
tests.
dans les étapes du prototype, ce qu'on appelle prototyper un
Ouais,
produit,
c'est ça.
un service, donc tu es dans cette phase-là.
Ouais, sauf que bon, du coup, moi pour moi c'est lancer le truc. Donc
Ah.
je fais tout à petite échelle au début, je regarde, voilà, j'essaye de développer. Enfin, un petit réseau autour de
Et
ça.
justement, ce réseau, comment tu les développes? Parce que ce n'est pas la même cible, c'est-à-dire toutes tes activités, ce n'est pas vraiment le même persona. Du coup, à chaque fois, tu refais un autre persona et du coup, tu communiques autrement. Enfin, du coup, t'es à chaque fois en train de reconstruire un réseau pour chaque projet ou tu t'y prends quand?
Effectivement, moi, j'ai trois interlocuteurs qui sont complètement différents. Donc le premier écosystème, donc c'est vraiment lié à mon travail d'avant. Donc voilà, j'ai essayé de tisser et donc c'est très professionnel, c'est très LinkedIn, c'est très voilà. Yukata, c'est vraiment plus, j'essaye de cibler les familles. Donc d'ailleurs on a lancé une nouvelle gamme en paire avec les enfants. Donc, ça va plus être voilà, famille, personne un petit peu plus âgée aussi. Et la petite bite, là, on est sur du 20. Enfin, quoique, hein, parce qu'en observant les chiffres, on est plus sur du 35, finalement, c'est plus notre âge, alors qu'on s'attendait à plus jeune, mais.
Quelles sont les qualités indispensables pour qu'une femme entreprenne un business?
Je dirais le premier truc, c'est vraiment de savoir ne pas se mettre des stops tout seul. Ça, d'ailleurs, c'est très propre à la gente féminine, de se mettre des stops tout seul. Mais du coup, vraiment se faire violence pour se dire mais si, pourquoi pas, non, non, non. Je pense que ça, c'est le premier truc. Après, effectivement, tu as parlé d'organisation. Il y a une grosse charge mentale quand tu as plusieurs trucs. Parce que du coup, enfin, tu as trois streams qui sont tout le temps allumés. Et voilà, faut gérer un peu les charges mentales des autres projets pendant que tu bosses sur un projet. Donc ça parfois c'est un peu chiant parce que un peu fatigué.
L'impression d'être fatigué tout le temps, parce qu'en fait, une fois, en fait, tu as l'impression toujours d'être. Il y a quelque chose qui manque par rapport à un projet. Parce que comme les projets, enfin, ça se gère en parallèle, et du coup, à chaque fois, tu as quelque chose à faire, et du coup, tu penses en permanence à d'autres choses à faire. Et c'est vrai que, enfin, après, je pense des profils comme ça qui lancent des projets en parallèle, c'est parce que c'est en quelque sorte. Enfin, moi, je fais ça en permanence et je ne peux pas être juste sur un projet, c'est impossible. Enfin, par exemple, il y a des copains à moi ou des copines qui sont sur un projet, mais moi, je vais m'ennuyer en fait. C'est pas
Ouais,
possible.
non, c'est clair. Donc, c'est à la fois, c'est cool d'avoir plusieurs trucs en cours. Et parfois, voilà, c'est ça qui fatigue un peu parce qu'il n'y a jamais rien qui est fini, en fait. Enfin, il n'y a jamais. Parce que si on est sur un projet, bah, on a des to-do, on accomplit des choses voilà, au fur et à mesure. Quand il y a trois projets, bah, c'est ouais, j'en ai accompli un, mais du coup. Il y a l'autre truc que j'ai pas fini. Enfin, en fait, on n'est jamais pleinement satisfait, entre guillemets.
C'est ça.
Donc ça, faut savoir l'accepter. Et aussi, du coup, ça, c'est très propre à mon cas, mais bah, faut savoir mettre sur pause aussi. Enfin, quand j'arrive pas à gérer. Typiquement, quand j'ai lancé mon activité principale, bah, clairement, les deux autres marques... Bah, je les ai un peu mis sur pause, j'ai rien communiqué. D'ailleurs, le projet du bouquin, en fait, c'était à ce moment-là. Le bouquin, j'avais fini de faire les interviews, etc., au moment où j'ai eu ma première mission avec mon activité principale. Bah, clairement, je n'allais pas mettre en danger cette première mission. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je mets sur pause, je le reprendrai. Voilà, il ne faut pas non plus s'angoisser parce que... On met sur pause une des activités, quoi. C'est pas grave. En fait, aujourd'hui, voilà, les gens, tu réapparais au bout de 6 mois, c'est pas très grave, en fait. Tu vois? Je
Exactement.
pense.
Bien sûr, en fait, il y a aussi une priorité. En fait, tout ne doit pas se faire vite. Et puis, ce temps, c'est un temps aussi de maturité. C'est là où enfin, le fait de faire autre chose et revenir sur ton projet, sur lequel tu as travaillé 6 mois, enfin, tu apporteras un regard nouveau parce que dans les 6 mois, tu auras évolué différemment. Enfin, moi, en tout cas, je prends les choses de cette manière-là.
Ouais, c'est clair. Et parce que on attend, enfin, moi, à un moment, j'ai eu un truc, tu sais, la machine Insta, où je me suis dit, oh, mais je pose pas du tout tous les jours, les gens ils vont m'oublier, machin, machin. En fait, bah, tu sais quoi, entre guillemets, ceux qui veulent du contenu tous les jours, eh ben, c'est pas mon public, et puis tant pis, et puis. Voilà, si ça les intéresse vraiment, ils sauront attendre que j'ai des trucs à raconter. Enfin, voilà, j'ai aussi vachement relativisé sur un peu ce truc-là aussi, quoi.
Non, mais carrément. Et aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fois, ils se mettent beaucoup de pression et ils oublient que, il y a peu de temps, en fait, tu pouvais juste communiquer autrement et tu te fais un chiffre d'affaires, en fait. Et tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie sur Instagram pour que, enfin, tu as les nombres de ventes qui augmentent. Enfin, il y a d'autres manières. Il y a le fait de créer un lien, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire peu de liens, mais qui sont qualitatifs et du coup, qui ne te prennent pas beaucoup d'énergie, de concentrer ton énergie vers, bah, je sais pas, l'amélioration de ton service et de ton produit.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Ok, et aujourd'hui, Marie, c'est quoi ta journée type?
Oh, alors, ma journée type, je me lève à 6h30. Quand je suis motivée, en ce moment, pas trop. Mais j'aime bien faire des petits étirements de 10 minutes.
OK.
J'ai démarré ça en 2021 en tant que résolution et je trouve ça super, en vrai, ça réveille bien et j'ai moins mal au dos. Je fais ça, je petit déjeune, je prends vachement le temps le matin en fait, parce que je mets du temps à émerger. Et je démarre, je dirais, entre 8h et 8h30. Donc, je me fais des to-do sur mes petites ardoises. Ça aussi, c'est la grande idée de 2021. Je travaille sur des petites ardoises d'écolier, mais ça me fait ma to-do. Et donc, voilà, je me fais des petites cases. Donc, j'ai un côté d'ardoise par projet. Et donc, je me fais des petits objectifs pour la journée. Bon, là, du coup, je ne quitte pas trop mon chez moi, hein, vu le contexte. Voilà, je fais mes vidéos, mes trucs. Mais bon, la plupart du temps, je bosse sur mon projet principal. Après, je fais mes petits trucs. S'il y a des commandes, je les prépare. Je vais souvent les poster à midi. Comme ça me fait une petite promenade et je prends le soleil. Voilà. Je déjeune devant Netflix. C'est pas bien. Il faudrait mieux que je lise. Mais je regarde les
Un petit
petits
moment de répit quand même.
trucs. Ouais. En plus, j'ai acheté le nouveau bouquin de Margaret Atwood. Et ça a l'air trop cool, et donc il faut que je le lise. Mais c'est vrai que c'est dur quand il n'y a pas le métro de se plonger dans un bouquin. Enfin, moi, je lis beaucoup dans le métro, donc là, c'est un peu compliqué.
Vrai que les transports, moi, ça me manque en ce moment pour lire. Enfin, moi aussi, je lisais beaucoup dans les transports et c'est vrai, en ce moment,
Oui.
je télétravaille pas mal. Enfin, je fais que télétravailler depuis
Ouais.
un an.
Mais non, mais c'est. Et moi, je rédige vachement bien dans le métro. Donc, en fait, moi je travaille bien en fait dans le métro. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le ballottement. J'en sais rien, mais je travaille vachement bien. Donc, il y a des moments où je me dis, ah, je me ferais bien un petit aller-retour jusqu'à l'Opéra. Je vais écrire un article dessus. Voilà. Et puis, je me fais une petite balade à 17h30, histoire d'eux. Et puis à 18h, je suis à la maison. Et puis je finis, quand j'ai des grosses to-do, je finis un peu tard, ça m'arrive. Mais en général, j'essaye de me dire qu'à 20h, c'est fini, quoi. Et
D'accord.
voilà. Et puis je me
Ben
couche
top.
tôt. Je suis.
Ouais, c'est normal parce que tu te réveilles enfin, plus tôt, quoi. À 6h30, c'est un peu
Ouais. En général, je suis un peu naze à partir de 11h du soir, quoi.
Ah oui, c'est marrant. Moi, c'est à ce moment-là que je me réveille.
Ah ouais. Ah ouais, non, non, je suis fatiguée là. À 11h, je suis dans
Ouais, c'est là en fait mon
mon
cerveau il commence à faire pump it up. Enfin, et du coup, je reste réveillée jusqu'à 2h30. Du coup, les matins, j'ai du mal quoi, enfin, de me réveiller. Mais je suis
ouais,
obligée de
normal.
me réveiller pour le travail et tout. Mais c'est vrai que le matin, il ne faut pas venir me parler, quoi. Enfin, il me faut vraiment boire 2 cafés pour me réveiller.
Trop drôle.
Et du coup, Marie, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises pour réaliser justement tes projets et que tu vois vraiment pas ta vie sans eux?
L'ordi, déjà, ça
Ouais.
c'est. Enfin, en fait, parce que là, donc là, je suis donc là en ce moment, je suis à l'Aiguillon. Et en fait, on est dans un truc temporaire, enfin, le temps de trouver où se loger. Et il n'y a pas de Wi-Fi. Et donc, je suis en partage de connexion. Et mon Dieu, en fait, comment on dépend du Wi-Fi, quoi. J'ai réalisé ça, j'ai fait, ah, c'est triste, mais en même temps, bah oui, mais c'est mon lien avec. C'est le lien avec les autres en ce moment, en fait.
Et
On est
surtout en
obligé
plein
d'avoir.
confinement et surtout en plein Covid, quoi, c'est sûr.
Ouais. Et donc, ça, j'ai réalisé. Je me suis dit, voilà, ça, c'est. Enfin, tu as tous les mecs que je regarde, que je suis sur TikTok, qui parcourent en van le monde et qui bossent du van. Non, non, je me dis, ouais, mais en fait, il faut une connexion de ma boule, quoi. Ça, en vrai, c'est l'outil de travail, genre la connexion, c'est essentiel. Je m'en suis rendu compte. Donc, la connexion, l'ordinateur, et après, bah. Mes marques, en fait, c'est ma machine à coudre. Ça, c'est. Du coup, j'en ai besoin. Mais après, c'est. Bah, c'est mes petites ardoises de to do, mais bon, ça, je peux m'en passer, hein. Et puis, des trucs réconfortants. Moi, j'ai un petit doudou, mais enfin, c'est hyper gamin, hein, mais ça rassure vachement de se trouver des objets. Enfin, je suis sûre que tout le monde a un truc qui le réconforte.
Mais carrément.
Et moi, c'est ce truc-là. Et quand je suis un peu fatiguée ou que avant un call que je sens pas du tout parce que voilà, il y a des soucis, nanana, bah, je prends ce truc, ça me calme. Voilà. Enfin, je trouve que comme l'entrepreneuriat, il y a des moments de gros stress aussi. Bah, voilà, de se trouver un objet ou un truc à faire ou machin qui nous rassure et qui nous réconforte. Je pense que c'est essentiel.
Et carrément, c'est ça. C'est exactement ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs manières de se réconforter, bah, soit sortir, soit manger. Bah, il y a différentes manières, soit le sport aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Et du coup, Marie, je voulais te poser une question. C'est que, enfin, c'est toi aujourd'hui par rapport à ton business, c'est toi qui couds, c'est toi qui fais, enfin, qui brodes, etc. Et du coup, est-ce que c'était des choses que tu faisais depuis longtemps ou tu, enfin, vraiment, quand tu avais envie de réaliser, le projet, tu as tout appris sur le tas?
Non, j'ai pas appris sur le tas. Je me suis améliorée sur le tas, pour le coup. Après, voilà, la couture, je fais tout ce qui est petite finition, donc c'est vraiment pas compliqué. Les pièces, c'est ma mère qui les fait au Japon. Donc
D'accord.
vraiment, l'assemblage complexe, c'est elle qui fait. Moi, je fais les masques, je fais les pochettes, etc. Je fais toutes les petites choses qui prennent pas trop de temps, qui sont simples. La broderie, en fait. La broderie, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Enfin, c'est ma mère qui a dû m'apprendre. Tu sais, à un moment, c'était revenu à la mode. Donc, je m'étais remise à faire ça. Du coup, j'avais des copines qui me demandaient des trucs à broder nanana, pour faire des cadeaux. Donc, je faisais ça. Et puis, du coup, bah, j'ai brodé la petite bite. Et puis bah, ça a continué. Et puis maintenant, je brode beaucoup plus vite qu'avant, effectivement.
T'es
Par la
rodée
force
maintenant
des
pour
choses.
perfectionner.
Oui. Forcément, il fallait aller plus vite. Donc, au fur et à mesure, ça allait mieux. Mais ouais, c'est des trucs. En fait, je savais un peu faire. Et je me suis améliorée. Je suis allée plus loin. J'ai regardé des tutos aussi pour faire d'autres types de broderies. Au cas où, voilà, demain, on voulait proposer un peu autre chose avec la petite bille. Là, je continue de regarder, je continue à m'entraîner un peu, faire des trucs pour aller plus loin, quoi.
C'est top. Et aujourd'hui, Marie, avec un peu de recul, c'est quoi ton meilleur échec?
Mon meilleur échec?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas encore un échec, j'espère que ça va pas l'être, mais je m'en veux vachement du bouquin. J'ai envie de le faire et je me dois de le faire pour tous ceux qu'on a interviewés, mais c'est vrai que là, enfin, dans l'état où il est là, c'est un échec, mais ça va être mon meilleur échec parce que je vais le faire. Et je vais y arriver, mais c'est vrai que je dirais que j'ai mal évalué le temps que ça me prendrait, j'ai mal évalué l'implication que ça demandait. Ça, c'est un peu un truc que j'ai pas bien réussi, parce que si j'avais mieux planifié tout ça, je pense qu'il serait déjà sorti, quoi.
Non, mais
Mais
c'est normal parce que des fois, quand on a les idées, on est tellement enthousiaste au début que on se rend pas compte en fait. enfin, le temps que ça va nous prendre. Enfin, en ce moment, je travaille sur un projet artistique et au début, quand on a eu l'idée avec ma binôme avec laquelle on travaille sur le sujet, on était tellement enthousiastes et tout, on était tellement, on avait l'idée il y a un an concrètement, quand on a commencé à travailler sur l'idée à partir de janvier, c'est là où c'était un peu très compliqué parce que ça nous prenait une énergie de fou pour le faire, pour justement avoir du monde, pour faire des réunions, pour structurer, pour que tout soit bien, enfin que tout soit mis en place. Et c'est vraiment, c'est une énergie énorme. Et au début, on n'avait pas, enfin, on voyait pas ça en fait. Et du coup, aujourd'hui, on voit que ça nous prend vachement de temps. Enfin, carrément, ces derniers temps, on a commencé à mettre un peu de la structure pour ne pas parler que de ça, parce que sinon, ça fait beaucoup de... Enfin, t'es stressé tout le temps, t'es irrité tout le temps, parce que t'as toujours quelque chose à faire, en fait.
Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, ouais, je me dis, j'aurais mieux. Je me serais un peu posée en me disant, bon, on se donne des objectifs, on se truc. Et aussi, ça, ah oui, ça, c'est un autre truc, je pense que c'est important. Parce que je ne le fais pas du tout. Donc, c'est pas bien. Il faut déléguer certains trucs. Il faut accepter qu'on ne sait pas faire certains trucs. Typiquement, le livre, je pense que. J'aurais dû me dire que le graphisme, je le file à quelqu'un, les dessins, je propose à quelqu'un de faire les dessins à ma place. Bon, là, j'ai pas encore réfléchi comment le faire, etc. Mais ça a été aussi une des erreurs de me dire je vais tout faire. Parce que je peux tout faire. Mais du coup, il faut aussi accepter bah, qu'on ne le fait pas forcément bien parce qu'en fait, on n'a pas le temps de le faire bien.
Et c'est un meilleur apprentissage et tu as tout à fait raison. C'est vraiment le fait de savoir, bah oui, enfin, il faut des fois déléguer et
Ouais,
puis
parce
lâcher
que
prise quand tu délègues
on a
aussi.
tendance à se dire je vais en fait tout ce que je peux faire, il faut que je le fasse. Bah, en fait, non, pas forcément.
Super. Et du coup, c'est quoi ton bilan pour l'année 2020 qui était vraiment une année un peu compliquée et c'est quoi tes perspectives pour 2021?
2020, effectivement, c'était. En fait, ça a été une année un peu endormie. Et ça s'est vu dans l'activité dans l'activité des deux marques que j'ai vraiment endormie pour le coup pour me concentrer sur l'activité principale qui, elle aussi, voilà, ça a été. J'ai lancé le projet et c'est cool. Et. Voilà, là, j'ai des missions et ça va, mais voilà, comme il y a eu ce truc-là et que je me suis dit, OK, risque de pas pouvoir vraiment décoller, je mets toutes mes billes dessus et puis je fais en sorte que même si on est loin, je fasse du prospectif, que je rencontre des gens, que trucs pour pouvoir vraiment mettre le projet sur des rails. Donc, c'était très mono-activité pour le coup, 2020. Et 2021, je dirais, bah, 2021, bah, disons qu'on va sortir ce truc, disons qu'on va sortir ce projet. Mais c'est surtout, en fait, je me pose vachement de questions sur bah, le travail, sur la société, parce que. Voilà, on a quand même on a été très bousculés. Ça a bousculé les entreprises. Et je pense, j'aimerais que ce ne soit pas juste bousculé pour que ça revienne à la normale. J'aimerais bien que ça bouscule pour que ça avance. Et ça, je pense que ça passe aussi par une profonde réflexion sur. Justement sur les convictions que l'on met dans nos entreprises, dans nos projets. Et je me dis, voilà, même si par exemple on a un truc cool, où on se dit, voilà, j'aimerais bien faire ça, bah, je me dis, bah, il faut qu'on se pose la question de cette utilité. Est-ce que c'est utile? Comment je peux le rendre utile? Le truc cool que j'ai envie de faire, comment ça peut avoir une dimension utile pour les gens, pour la société? Et toujours de se forcer à se poser cette question-là et de ne pas tomber dans le... Voilà, je le fais pour dégager du profit, pour être successful, pour être truc. Parce que comme tout le monde, hein, je me suis dit à un moment, ouais, mais j'aimerais trop vendre des milliers de t-shirts. Et après, je me suis dit, ouais, mais est-ce que ça va servir, enfin, est-ce que c'est vraiment ça qui m'importe? Voilà, en fait, c'est tout ça que ça re-questionne, finalement. Tu vois, c'est tous ces bouleversements et ces questions. Je me dis, voilà, il faut que nous aussi, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne peut pas se poser les questions. C'est pas que les grosses entreprises qui doivent se remettre en question. Je pense que nous aussi. J'espère que 2021, je vais vraiment voilà, continuer à me poser ces questions-là et faire en sorte que voilà, je sois toujours alerte en fait, sur ces notions d'utilité et d'impact.
Exactement, et c'est des questions qui sont tellement pertinentes, quoi, surtout dans, comme tu dis, enfin, le Covid ou la Covid, parce que ça, c'est la grande question aujourd'hui, le ou la. du coup, a permis de changer nos perceptions aussi. Et de, moi, je me rappelle que pendant le confinement, c'est la première fois que les personnes, ils ont arrêté de poser les questions de. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais comment vas-tu quoi? Enfin, genre, on est revenu à l'essentiel. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant.
Bah, moi, en fait, ce que j'ai vu, c'était dans les mails de la signature. Bah, pendant le confinement, c'était pas cordialement bonne journée, c'était portez-vous bien. Et je me suis dit, oh, c'est tellement cool
C'est
parce
ça.
que on s'intéresse vraiment à ta santé, tu vois.
Moi, j'ai eu la même réflexion et ça m'a vraiment choquée, quoi. Je me suis dit, putain, mais il faut vraiment qu'on re-questionne tout ça, quoi. Même la place du travail dans notre vie, l'utilité dans notre vie. Enfin, en fait, il y a tellement de choses qui sont essentielles. En fait, on a été endoctriné que c'est du non-essentiel. Et du coup, on a commencé à revenir à. J'ai l'impression, hein, enfin, moi, c'est ma lecture en tout cas, on a commencé à revenir vers l'essentiel, enfin, grâce à là où le Covid.
Ouais, en fait, c'est vraiment. Moi, en ce moment, il y a un sujet qui m'intéresse trop et c'est lié à ce que tu dis, c'est de se dire, c'est quoi la valeur des choses? Parce que, voilà, je trouve que bah, on s'est rendu compte de la fragilité de l'homme et donc, finalement, la valeur est revenue à quelque chose de plus essentiel qui est la vie et pas le travail, pas l'argent. Et donc, en fait, ça re-questionne toutes les notions. De valeur et de perf, en fait. C'est quoi de la performance? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être performant pour une entreprise? C'est quoi la valeur d'une entreprise? Tu vois, aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, essentiellement, si elle est cotée en bourse, c'est sa cote, tu vois. Et je me dis, mais demain, s'il se passe la même chose, en fait, que le shift qui s'est passé sur l'homme, donc, en fait, est-ce que la valeur d'une entreprise... Ça va être bah, sa santé, entre guillemets, donc intellectuelle, sa santé morale. Et donc, en fait, des grosses boîtes qui ne pensent qu'au profit et au final, enfin, comme ce qui est en train de se passer avec Danone, hein, c'est terrible ce qui se passe avec Danone. De dégager le mec qui essaye d'avancer vers une vision utile pour la société, se fait dégager par les actionnaires. Parce que Danone n'a pas assez, a pas répondu en fait à ses objectifs financiers. En fait, c'est se dire non, 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 la valeur d'une entreprise, c'est sa cote financière. Et je me dis, il faut re-questionner ça, tu vois. C'est passionnant.
Non, mais en tout cas, c'est grâce aussi à des projets qui sont alternatifs. Enfin, c'est-à-dire, je pense, on est pas mal à se poser ces questions et on est à pas mal à vouloir proposer des solutions alternatives. Et c'est grâce à ça, parce que au bout d'un moment, enfin, la génération d'avant, enfin, je pense, hein, moi, c'est encore une fois, c'est ma lecture qui est subjective, je trouvais qu'elle voulait dans sa jeunesse se rebeller ou être un peu contre le capitalisme ou faire des choses qui importent, etc. Mais sauf qu'ils n'ont pas proposé des choses alternatives. Et du coup, ils attendaient que les autres y font des choses. Et après, ils étaient un peu obligés de rentrer dans des cases et du coup d'avoir un CDI, d'avoir de la sécurité et puis de rentrer dans le moule en quelque sorte. Et je pense que c'est à nous aussi de proposer enfin, des solutions alternatives qui correspondent à nos valeurs, ce qui est essentiel pour nous. Et moi, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, et c'est ce que je dis, c'est pas le profit, pardon, mais c'est l'impact que je fais par rapport à mes actions, par rapport à mes choix. C'est quoi l'impact que j'ai fait? Est-ce que cet impact, il correspond à ma valeur, à ma personne? Et puis moi, c'est ça ce qui me suffit. Après, des fois, j'ai des potes qui me disent, ouais, mais tu vas pas manger avec ça. Mais enfin, clairement, aujourd'hui, je me dis, ouais, enfin, les choses, ils vont changer. Et puis oui, je vais pouvoir manger avec ça, avec ma perception. Mais si on est plusieurs aussi à penser comme ça, ben bien sûr, ça peut le faire.
Oui, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. C'est nous qui sommes en train de construire les entreprises de demain. Donc, c'est à nous de poser un équilibre entre le profit, enfin, l'équilibre économique, sociétal et environnemental. Et de se dire, voilà, c'est à nous de se dire, c'est ça qui fonctionne, enfin c'est cet équilibre-là et on ne néglige pas un pilier par rapport à un autre. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'avoir un équilibre économique, hein. Je suis d'accord, on va pas, il faut manger, comme disent tes potes, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut, voilà, trouver ce truc-là et faire en sorte que ton objectif d'entreprise, ce soit pas de gagner plus d'argent, mais que ce soit d'avoir de l'impact. Et du coup, quel profit tu dois faire pour pouvoir assurer cet impact-là et pas l'inverse en fait.
Carrément. Et c'est quoi aujourd'hui le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat?
Un conseil, j'irais prendre son temps. Voilà, ne pas, enfin, c'est compliqué s'il y a une contrainte voilà, financière, si tu vois, la personne a pas de revenus, quoi que ce soit. Je peux comprendre que c'est compliqué, mais il faut vraiment pas se jeter trop vite, je dirais. Prendre le temps, justement. Pas de, tu sais, enfin, il y a plein de gens, moi, qui m'ont dit, ah, mais il faut que tu poses ton business plan, il faut que ton truc, nan, nan. Moi, j'en ai toujours pas. Je pense que c'est pas bien, mais c'est plus, c'est pas ce temps-là, mais plus le temps, comme j'ai dit au début, du pourquoi je le fais, qu'est-ce qui va me motiver? En fait, parce que c'est ça au final, nous, le plus dur, c'est qu'est-ce qui va me porter tous les jours pour me dire, je vais me mettre devant l'ordi et pas devant la télé, quoi. Parce que tu n'as pas de boss pour te dire de travailler. Et qu'est-ce qui va me motiver? Qu'est-ce qui va être mon moteur? Pourquoi je le fais? Enfin, toutes ces questions-là, de prendre le temps de se poser ça et de se dire, OK, et c'est ça ma vision, c'est ça mon objectif. C'est plus ça, je dirais, de prendre son temps. Et... Parce que moi, il y a plein de trucs, j'ai eu plein d'idées entre-temps, mais je n'arrivais pas à répondre à ces questions de manière satisfaisante, donc j'ai laissé tomber. Je fais, mais bah, en fait, ça, je vais abandonner le truc assez vite. Donc, ça ne sert à rien que je prenne le temps. Mais bah, quand il y avait des trucs intéressants, je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment cool et ça me motive et j'ai envie de le faire, bah, j'y suis allée. Et ça a vécu, ça a fait son chemin. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ce temps-là, de se poser toutes ces questions, qui sont un peu de l'introspection aussi. Voilà.
Carrément. Et si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel?
Alors, je vais prendre un livre par activité, si j'ai droit. Activité principale, donc pour Mono Itokoto, j'offrirai Les Villes Invisibles de Italo Calvino. Genre, c'est ma Bible. C'est un mec qui raconte des villes. C'est très, très beau, c'est très court, très facile à lire. Donc voilà, ça j'adore. Pour La Petite Bite, bah, c'est un peu le livre qui a démarré tout ça, c'est l'éloge
La
de la
vérité.
vieillesse. Et en fait, je ne sais plus le nom de la dame. Attends, comment elle s'appelle?
J'ai oublié aussi, je l'ai lu
Oh
pourtant.
la honte.
Je suis très très mauvaise pour les noms
Ouais, moi
des
aussi.
auteurs, des acteurs.
D'ailleurs, il y en a un que j'aimerais bien lire, c'est Le coût de la virilité.
Ah, je connais pas.
Ben, il vient de sortir, c'est Lucile Pétavant.
D'accord.
Mais en fait, c'est pas l'éloge de la virilité. Olivia Gazalet, le mythe de la virilité.
Ah, le
Voilà, ça.
mythe, c'est vrai.
Voilà. Le mythe de la virilité, ça, je l'ai lu et j'étais en mode wow, ok. Donc ça, c'était trop cool. Et sur le Japon, je n'ai pas forcément un livre en particulier, mais je suis une grande fan En fait, j'ai plus des films. C'est tout ce qui est Miyazaki. Moi, j'ai grandi avec ça. Et je trouve qu'il y a tellement de réflexions dedans,
Il est génial.
de questions. Et je les re-regarde en étant devenue adulte. Et je
Mais
vois
là,
toute la profondeur. Oh.
exactement, récemment, et c'est sur Netflix.
Ouais, il y
Il a
avait
fait un
tout.
partenariat avec Netflix, il y a tous ses films.
Ouais. Ouais, il faut vraiment. Enfin, il faut essayer de les revoir, de les re-regarder, parce qu'à chaque fois, il y a d'autres questions existentielles. Et ça, franchement, enfin, merci maman de m'avoir interdit Disney, quoi.
J'adore. Du coup, là, on va passer à la dernière partie de l'interview. Du coup, l'idée, c'est que je
Ok.
te pose des questions, enfin, des questions rafales. Et l'idée, c'est que tu répondes d'une manière la plus rapide possible,
Oh, ok.
sans trop réfléchir. La première chose que tu fais le matin.
Je fais des étirements.
Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite?
Ah, je ne sais pas. J'ai pas de modèle particulier de réussite.
Ok. Quel animal te présente le mieux?
Koala.
Quel est le dernier film que tu as vu ou la série?
Ah, j'ai commencé WandaVision.
D'accord. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité?
La gentillesse.
Et ton plus gros défaut?
La tyrannie. Suis un peu tyrannique, mais surtout envers moi-même.
C'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
Je renifle mon doudou. C'est tellement chelou, mais ouais, je suis un peu accro à ce truc.
Du coup, merci Marie. Est-ce que tu peux nous dire enfin, la dernière chose que tu souhaites dire à nos chères auditrices et puis où on peut te retrouver?
Heureusement qu'il y a ce dernier truc, parce que sinon ça se terminait sur je sens l'odeur de mon doudou, c'était trop la honte. Bah, ce que j'ai envie de dire, bah, entre guillemets, voilà, enfin, tout est possible, c'est trop bateau, mais en vrai, si, j'essaye de m'appliquer ça à moi-même, de jamais me dire non d'abord, toujours oui, et on explore, on se pose des questions, on ouvre plein de portes. Et voilà, et naturellement, ce qui mérite d'être accompli, bah, sera accompli. Ce qui ne mérite pas d'être accompli, voilà, s'arrêtera naturellement et ce sera des jolis, jolis échecs. Voilà, donc je dirais, en fait, explorer toutes les idées, se poser les bonnes questions, comme on a dit tout à l'heure. Parce que c'est hyper intéressant en fait de se les poser régulièrement. Je pense que ça, c'est une bonne base d'entrepreneuriat.
Carrément.
Ah oui, et tu m'as dit où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, on peut me retrouver sur. Donc, l'activité principale, ce sera monoitokoto.com. Yukata by Mom, sur Insta, c'est Yukata by Mom. Et le website, c'est yukatabymom.com aussi, je crois. Oui, c'était .com. Et la petite bite, c'est lapetitebite.fr pour le coup. Et Insta, c'est aussi lapetitebite.fr. Tout pareil. Et puis sinon, sur Insta, vous pouvez m'écrire. Je ne sais pas si ça intéressera les gens.
Mais carrément, mais carrément. Et aussi, t'es présente aussi sur LinkedIn.
Oui, alors mon nom complet, c'est Marie Durand Yamamoto. Un peu long, mais Durand, c'est mon papa et Yamamoto, c'est ma maman.
Trop bien. Ben, merci beaucoup, Marie, pour tout.
Merci à toi.
Et à très, très vite.
Oui, à bientôt.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine!